puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.
Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous magazine. Invité aujourd'hui, un musicien dans notre magazine, Timothée Coteau. Timothée Coteau, bonjour.
Bonjour, bonjour Hervé, bonjour tout le monde.
Alors, on a déjà entendu cette voix sur le 94.10, mais pour nous parler d'un autre projet, c'était vous.
Oui, tout voilà. À fait.
Parce que c'est un artiste qui aime le projet, qui en défend plusieurs. On va se focaliser sur un des projets, mais on parlera également des autres au cours de cette émission. Aujourd'hui, il court de radio en radio pour faire la promo d'une date qu'on va donner tout de suite. Ça se passe très vite, très prochainement.
Oui, c'est le 6 avril. Alors, c'est sur Lille, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, la très belle cathédrale de Lille qui a été construite en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, avec cette façade très moderne. Et en fait, en dessous de la façade très moderne, il y a un espace de cave. Donc, c'est dans le béton. Et cet espace-là, c'est devenu un centre d'art sacré, en fait, hein, puisque c'est des œuvres contemporaines autour de la religion catholique. Mais c'est ouvert à plein de monde. Et donc, c'est vendredi 6 à Notre-Dame de la Treille.
Alors voilà, c'est de la musique païenne ce que tu proposes, c'est pas
oui.
De la musique sacrée.
Ah non, pas vraiment, non, mais ils sont très ouverts, donc quand ils m'ont proposé, moi j'ai accepté la proposition avec beaucoup de plaisir, parce que on peut jouer partout. Moi ce que j'aime en plus, c'est jouer dans des endroits insolites, des endroits qui ont une résonance, et pas seulement une résonance acoustique, mais une résonance avec les œuvres, puisqu'en fait là le concert se fait plutôt dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Nuits de la Crypte, et dans ce festival, plusieurs artistes viennent et interagissent avec les œuvres qui sont exposées. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas forcément trop à l'avance ce que je vais y jouer, mais je vais plutôt adapter ce que je vais jouer en fonction de tout ce qui va être exposé.
Voilà, ça plaît au personnage, parce qu'il aime se laisser guider tant par les lieux, par leur atmosphère, que par son instrument, et l'instrument, c'est un violoncelle. L'album s'appelle Les Violoncelles Seuls, et c'est bel et bien au pluriel.
Oui, tout à fait. C'était un petit clin d'œil en même temps, parce qu'il y a le morceau le plus connu pour violoncelle, c'est les suites de Bach pour violoncelle seul. Et puis moi, je me suis retrouvé avec mon instrument tout seul aussi, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en sortir si je suis seul avec cet instrument, qui en plus est monophonique. Ça veut dire qu'on peut faire qu'une note à la fois, autant sur un piano ou une guitare, on peut jouer plein de notes en même temps, ce qui fait qu'on peut le faire chanter à plusieurs voix, mais un violoncelle seul, c'est assez difficile de le faire chanter à plusieurs. Et grâce au studio, moi j'ai pu mettre mon violoncelle en miroir avec lui-même, et le faire jouer en même temps que lui-même, et donc en faire des violoncelles seuls au pluriel.
Voilà, il s'est démultiplié à l'occasion du studio. Ce projet d'album, il naît à quel moment dans ton parcours artistique? À quel moment tu as souhaité, parce qu'on te connaît avec des artistes, ouais. Comédiens, performeurs, sous quelque forme que ce soit, mais le projet solo, ça naît pourquoi? À quel moment?
Pourquoi? En fait, ça fait longtemps que moi je joue des choses seules pour des compagnies de théâtre, par exemple pour des randonnées. Donc je peux me retrouver dans une dune à jouer un morceau pour des randonneurs, animer ce genre d'événements. Et donc petit à petit, moi je me suis fait une espèce de collection, un petit patrimoine à moi de morceaux. Et ça faisait longtemps que j'avais envie qu'il y ait un objet, ou en tout cas de poser ces musiques-là sur, non pas le papier, mais sur le plastique du disque. Ou sur internet, et donc c'est venu un peu comme ça, un moment où j'avais envie aussi de le faire pour mon amoureuse, très concrètement, qui est sur la pochette d'ailleurs, et qui a réalisé d'ailleurs les photos qui sont à l'intérieur. Et voilà, c'était aussi l'occasion, ça a été une belle occasion en fait de m'enfermer comme ça dans un studio et de poser ces morceaux. Et puis finalement, les morceaux que j'ai enregistrés, c'est pas ceux que j'avais dans mon répertoire, c'est d'autres. Parce qu'évidemment, les morceaux que je jouais seul, c'est pour un seul violoncelle. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je profite du studio pour pour jouer avec moi-même en fait.
Les morceaux se sont écrits au fur et à mesure de l'enregistrement ?
Ouais, tout à fait. J'ai utilisé pour enregistrer une méthode que j'aime bien. Je me suis aperçu, moi je suis issu du conservatoire, j'ai fait beaucoup de musique écrite. Ouais. Et l'écriture de la musique, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu du mal. Parce que quand j'ai commencé à composer, à vouloir composer en tout cas, j'étais assez jeune. J'avais peut-être, je sais pas moi, 12, 13, 14 ans. J'avais envie d'écrire des partitions, etc. Je baignais un peu là-dedans. Je les écrivais, j'étais tout content de moi. Puis quand je les jouais, je me disais, mais ça marche pas, ça sonne pas. Voilà, et donc j'ai un rapport à la musique écrite qui est un peu spécial. Bon, maintenant j'ai fait du chemin depuis, mais j'ai aussi découvert la musique spontanée. Alors je dis pas la musique improvisée parce que la musique improvisée ça fait penser au jazz, mais la musique spontanée c'est celle que j'ai pu faire notamment dans un groupe qui s'appelle Spring, qui est un groupe de musique complètement non répétée et impromptue, qui arrive comme ça et qu'on prend. C'est pour ça qu'on s'inspire du lieu, de la résonance, du son, etc. Des musiciens aussi qui se rencontrent à ce moment-là, qui n'ont jamais joué ensemble.
C'est le penchant de ce que peut être au théâtre la ligue d'impro.
Ouais, c'est un peu ça, voilà. Et donc j'ai utilisé beaucoup ça pour libérer en fait mon violoncelle, pour qu'il parle tout seul. C'est-à-dire que Alors, ça dépend des morceaux, mais j'ai pu écrire des bases, en fait, des bases musicales, une première ligne de violoncelle, et j'avais juste ça, quoi. Et j'enregistrais, évidemment, cette première ligne, et puis ensuite, je me remettais le casque sur les oreilles, et c'est parti, quoi. Je voyais vraiment ce qui sortait spontanément, sans y réfléchir. Et cet album, je l'ai fait un peu, chaque morceau, je me fixais une après-midi d'enregistrement, où je savais à quelle heure j'arrivais, je savais pas quand je repartais, mais par contre, quand je repartais, le morceau était fini. Ça, c'était la contrainte. J'ai essayé de pas travailler trop dessus, de pas revenir, de pas trop me poser de questions, de laisser la place à la vie, à la liberté, dans la manière d'écrire les morceaux. Alors, tous sont pas écrits comme ça. Il y en a qui étaient assez préparés, puis il y en a qui étaient moins, il y en a qui étaient pas du tout préparés. Il y a des... Voilà, j'essaie aussi de varier l'écriture, varier la méthode d'écriture pour aussi... donner sur un enregistrement quand même de 12 titres, donc une cinquantaine de minutes, sans voix, sans parole et avec rien d'autre qu'un seul instrument, donner un panorama des possibilités de cet instrument.
On écoute un premier extrait, et puis au cours de l'émission, on va parler de ton parcours, de l'instrument, et puis de cette date. Donc, c'est dans la crypte de
la cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Notre-Dame de la Treille à Lille, c'est le 6.
Oui, c'est le 6 à 21h, les portes s'ouvrent à 20h30.
Voilà, on pourra donc aller t'écouter là-bas en live, et puis il y aura également l'album de disponible si vous craquez pour cet album Les Violoncelles Seuls. Le titre qui ouvre l'album, c'est Monochrome. Et pourquoi Monochrome ?
Ah, parce que souvent quand j'écris de la musique, quand il faut trouver le titre, j'ai une impression lumineuse. Enfin voilà, pour moi la musique c'est une matière, c'est une texture, c'est pas du tout... c'est très concret en fait, c'est souvent rugueux ou pas rugueux, ou voilà, donc j'ai souvent une impression visuelle. Et là j'étais beaucoup dans le monochrome à ce moment-là.
Voilà, et comme les violoncelles seules sont au pluriel, forcément, monochrome l'est aussi. On écoute de suite.
Thank you.
extrait de l'album Les violoncelles seuls, c'était Monochrome, Timothée Couteau, aujourd'hui l'invité de La Puce à l'oreille. À quel moment tu quittes le répertoire classique? Parce que le violoncelle, c'est pas ce qu'il y a de plus rock'n'roll.
Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de classiques pendant des années. Puis en plus, le violoncelle, c'est pas un instrument assez immédiat. C'est-à-dire qu'un piano, on fait tung sur la touche, et s'il est accordé, le piano, ça sonne juste. Un violoncelle, c'est moins intuitif, quoi. Il faut un certain temps avant de pouvoir faire des sons qui nous plaisent, de jouer juste. Il y a plein de contraintes, il y a un archet d'un côté.
Ça s'apprivoise, en quelque sorte.
Ouais, c'est un long parcours, en fait. Il faut vraiment passer des heures et des heures sur l'instrument pour arriver, à mon sens, à jouer quelque chose qui tienne à peu près la route, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai fait pas mal d'études classiques jusqu'à une vingtaine d'années. Et puis après, par la force des choses, j'ai un peu arrêté. J'ai collectionné les médailles là-bas au conservatoire. Donc je suis passé par toutes les couleurs. J'ai eu bronze, argent. Je me suis dit, l'année d'après, tiens, je vais avoir de l'or. Et puis non, j'ai eu médaille de vermeil. Vermeil, c'est un mélange d'alliage. Enfin, c'est un alliage argent et or, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, l'année suivante, à l'arraché, juste avant de partir, j'ai eu la médaille d'or. Et puis ensuite, je me suis retrouvé avec un instrument que je jouais, mais finalement que j'exploitais pas beaucoup en concert ou jouais d'autres trucs, mais pas vraiment celui-là. Et puis après, c'est par le biais du théâtre où j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène avec lequel je travaille encore aujourd'hui, avec lequel j'ai réalisé que j'avais dans les mains quelque chose, un objet qui, rien que par un son, pouvait créer une atmosphère, en fait. Un jour, on travaillait un peu ensemble, et puis il lisait un texte, il me dit « Tiens, fais quelque chose, j'essaye des trucs derrière. » Et puis, à un moment, il dit « Non, fais juste une note, quoi. » J'ai fait une note. Et là, j'ai découvert que juste cette texture racontait plein de choses, en fait, qu'il y avait pas besoin d'être très, très loquace pour pouvoir raconter quelque chose, créer une ambiance, créer une pesanteur ou pas, ou une légèreté, etc. D'où mon rapport aussi avec les matières. Souvent, je dis que je fais des décors sonores dans lesquels évoluent les comédiens, dans lesquels évoluent leurs textes. Et puis, petit à petit, je me suis mis, moi, à détourner l'instrument, à en faire, en tout cas, à le faire mien, c'est-à-dire à oublier un peu ce que j'avais appris pour réapprendre par moi-même. Parce que je me disais que toutes ces années d'études, il fallait que j'en fasse quelque chose, et qu'il fallait pas que j'abandonne là. Voilà. Donc, toutes ces expériences avec des comédiens qui m'ont vraiment sorti du conservatoire, qui m'ont vraiment amené sur d'autres choses, et puis cette espèce de reconnaissance à la fin où les gens font des retours, quoi, encourageants. Tout ça, ça m'a encouragé à retravailler l'instrument et à l'envisager d'une autre manière.
Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'une carrière de musicien au sein d'un orchestre symphonique?
Parce que c'est pas du tout le même rapport à l'instrument. Dans un orchestre symphonique, on est assez anonyme, puisqu'on est noyé. À gauche, il y a un violoncelle, à droite, il y a un violoncelle, derrière, il y a un violoncelle, et devant, il y a un chef d'orchestre. Si on est au premier rang, si on est au deuxième rang, voilà. On joue la partition, on joue sous la direction du chef, et puis il y a le plaisir quand même de créer une œuvre qui est quelque chose qui nous dépasse tous, quoi. C'est-à-dire que, on met chacun de petites pierres à l'édifice, et puis ça crée quelque chose d'énorme qui s'échappe de nous. Mais c'est pas finalement, la personnalité peut pas vraiment traverser ça. Je vois rarement je l'ai vu une fois sur un concert, des musiciens qui vraiment vivent leur musique au point de bouger, au point de se lever, au point de hocher la tête, etc. Les musiciens classiques dans un orchestre sont très statiques quand ils jouent, ils sont très concentrés parce qu'ils font leur travail. Et moi j'avais envie de pouvoir mettre plus de personnalité là-dedans, plus de vie, plus de moi-même, d'être plus exposé, comme on peut l'être.
Liberté supplémentaire, mais prise de risque également accrue.
Ouais, exactement. Donc c'est vrai que c'est plus au sein d'un groupe, on est trois ou on est quatre. Évidemment, chacun est soliste, hein, c'est quatre solistes. Et puis quand on est tout seul, évidemment, c'est encore plus. On est forcément, il n'y a que nous, quoi.
Tu nous expliquais tout à l'heure que dans le concert que tu vas donner le 6 avril à 21h dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Traille à Lille, dans le cadre du festival de la crypte,
les nuits de la crypte,
tu vas te laisser imprégné par les lieux pour en donner ton interprétation. Est-ce que à ce moment-là, c'est une réinterprétation des titres que l'on peut trouver dans l'album, tu t'inspires également de ce que tu as aujourd'hui enregistré?
En fait, je peux improviser de la musique, puis je peux aussi choisir à un moment donné de placer effectivement un titre, de partir sur quelque chose d'écrit, de préparé. Donc c'est un concert improvisé avec aussi tous les outils que j'ai, tous ces morceaux-là. Donc effectivement, j'ai fait une présélection de choses que je pourrais éventuellement jouer, je ne sais pas dans quel ordre, et je ne sais pas ce qui va se passer.
Le lieu interagit, le public également.
Oui.
Tu ne t'adresses pas avec chaque concert est unique.
Oui,
va te voir.
C'est vrai que jouant d'un instrument acoustique, donc qui peut être sonorisé, mais qui peut aussi, où on peut aussi jouer dans des lieux où on n'a pas de sonorisation. En fait, on est très très dépendant de l'acoustique du lieu finalement. Si on est en plein air, on a des chants des oiseaux, on a peut-être une route au loin, et puis le son qu'on envoie, il s'échappe partout, il revient jamais. Si on est dans une cathédrale, évidemment, le son part et revient, donc ça fait une réverbération immense, et on ne peut pas jouer de la même manière dans ces lieux-là. Donc le son du lieu fait partie finalement de l'instrument. Finalement, l'instrument, c'est l'objet violoncelle en bois, plus les murs qui sont autour. Quoi.
Et les conditions dans lesquelles se trouve le public, ça aussi, ça compte?
Aussi, ouais. Essayer de sentir un peu quel est le moment pour jouer telle chose, telle ou telle chose, amener... essayer de sentir les sentiments humains, les émotions qui essayer de s'adapter.
Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est le silence à la fin de l'exécution ou c'est le temps où les gens applaudissent?
J'ai des beaux souvenirs de silence avant que les gens applaudissent ou justement le temps qu'ils atterrissent. Où on ne sait pas trop ce qui va se passer, où tout est possible. Je pense qu'effectivement, le silence, c'est quelque chose de précieux. Par exemple, pour ce concert vendredi, le silence, quelque part, il arrivera longtemps après la dernière note, puisqu'il y a une réverbération immense. Et du coup, les silences sont quand même habités.
Si je prends l'image en disant que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est un numéro de funambule partant de grand vent, ça ressemble un peu à ça que de mettre un violoncelle dans un lieu qui réverbère tellement?
Oui et non, parce qu'en fait moi j'adore la réverbération, j'en joue, j'adore les longues notes, j'adore ça, donc en fait funambule peut-être parce que il va falloir faire avec l'existant, avec ce câble. Le grand vent peut-être moins parce que au contraire c'est plutôt du velours quoi, c'est un funambuliste qui serait sur un fil de velours dans un endroit idéal quoi. Il y a quelque chose de ça, il marcherait sur une corde de violoncelle par exemple.
Quand tu enregistres, tu nous expliquais tout à l'heure, tu as fait tourner le violoncelle, tu as pu enregistrer plusieurs pistes, ouais. Réadditionner le violoncelle sur le violoncelle sur le violoncelle. Au moment où on passe à l'exécution, cette fois-ci, avec un instrument, comment on fait pour démultiplier? On ne peut plus.
Alors ça pose vraiment des gros problèmes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet objet disque, on se dit qu'est-ce que j'en fais maintenant, puisque je ne peux pas le jouer sur scène tout seul en tout cas, je ne peux pas le jouer à moins d'avoir trois autres violoncellistes avec moi ou quatre.
Ou de lancer des boucles et des samples.
Et que finalement, comme en parallèle au violoncelle acoustique, je joue aussi du violoncelle électrique et que j'ai un peu mis les mains dans tout ce qui est électronique et pédales de boucle, etc. J'ai fini par interconnecter mon violoncelle à une pédale de boucle. Et c'est là où on rentre dans des problèmes d'acousticien et d'ingénieur du son, parce que enregistrer un violoncelle avec un micro ou avec un capteur, donc c'est une puce qui est posée directement sur l'instrument, qui est collée dessus, ne restitue pas le son du violoncelle en réalité. Le micro restitue le son qui a un point au-dessus du violoncelle avec la coloration du micro. Et le capteur qu'on va coller dessus prend la vibration et ne restitue que la vibration. Et moi, j'avais le problème que bah, je n'étais jamais satisfait du son de la boucle, en fait, qui n'était pas acoustique, forcément, puisque ça passait par de l'électronique. Et en réfléchissant un petit peu et en découvrant la technique, la technologie des vibreurs, je me suis amusé à expérimenter un haut-parleur qui soit naturel. C'est-à-dire que quand je joue sur scène maintenant ces morceaux-là, je ramène un deuxième violoncelle qui est à côté de moi et qui me sert à diffuser toutes les boucles que j'enregistre en direct. Donc je peux jouer deux violoncelles en même temps, en réalité. C'est comme un guitariste électrique qui aurait son ampli, sauf que moi, mon ampli, c'est un deuxième violoncelle avec tout un système de vibreurs placé dessus qui le font vibrer et qui recrée finalement une vibration d'un objet en bois qui va se propager en trois dimensions dans l'espace et donc un son acoustique, ou plus proche de l'acoustique qu'un micro.
Tu parles beaucoup de son, très peu de musique.
Le son, c'est l'ADN de la musique, c'est la brique, et moi je peux être autant fasciné par une note, j'en parlais tout à l'heure, comment la faire évoluer, comment que par la juxtaposition des notes. Et effectivement, moi j'aime bien le côté timbre, le côté tessiture de l'instrument, le côté on empile des sons pour voir ce qui se passe, et pour créer finalement une musique, pour créer soit une atmosphère dans laquelle on baigne, dans laquelle on va ressentir quelque chose, ou pour créer un propos musical avec un discours musical. Et souvent dans les concerts, moi je m'amuse à soit jouer du violoncelle vraiment acoustique seul, soit jouer sur la sonorité, l'empilement, la boucle, l'interconnexion entre ces deux violoncelles, etc.
Le système que tu as imaginé donc pour pouvoir jouer deux violoncelles en étant seul, ce côté géotrouve-tout, ingénieux, t'es le seul à en user aujourd'hui ou d'autres se sont déjà inspirés ou tu t'es inspiré du dispositif existant?
J'ai imaginé ça parce que j'ai vu un peu, j'ai étudié un peu le son aussi, la matière sonore. Et puis j'ai étudié ça un peu dans mon coin jusqu'à aller à un moment donné avoir un rendez-vous à l'IRCAM parce qu'ils avaient développé la même chose.
Alors l'IRCAM, c'est l'Institut de Recherche
et de Coordination Acoustique Musique qui se trouve à côté du Centre Pompidou à Paris.
Voilà, à côté des jolies fontaines.
La fontaine, ouais, effectivement. C'est juste derrière, voilà, et c'est un centre de recherche sur plein de trucs, dont l'écriture musicale, les nouvelles écritures.
Ah, ça va très loin, il y a une recherche très poussée à l'IRCAM.
Ouais, ils ont un matériel de malade et des compétences de fou. Voilà, et puis donc j'ai essayé de... Parce qu'eux avaient déjà développé quelque chose de similaire, eux ils l'ont fait sur le même instrument, c'est-à-dire qu'avec leur système, je pourrais jouer et faire jouer par mon instrument ce que je viens de jouer, en plus de jouer dessus, c'est-à-dire avoir un violoncelle qui soit réellement polyphonique.
Ouais.
Ça c'est assez intéressant, j'ai pas pu l'essayer encore, mais je vais m'accrocher et puis frapper à la porte encore, pour essayer d'aller plus loin. Eux, ils ont développé ça sur des violons, des violoncelles, des guitares, Et la personne qui a développé ça monte actuellement son entreprise de guitare quelque part en France.
Il y a une pièce essentielle dans un violoncelle, et ça porte un joli nom, c'est l'âme du violoncelle.
Ouais.
Est-ce qu'on tue pas l'âme de l'instrument quand on met comme ça des tas de technologies avancées, certains diront subterfuges?
Ouais, moi je sais pas, c'est vrai qu'il y a une espèce de purisme qui peut se manifester en voulant garder l'instrument intact, etc. Moi je pense qu'on a voulu faire de la musique depuis la préhistoire. Au départ on prenait des cailloux et puis on tapait sur d'autres cailloux et puis ça faisait des sons, on aimait bien. Et puis après, je sais pas, on a pris des peaux de bêtes, on les a tendues, ça faisait des percussions. Et puis après on s'est aperçu que si on soufflait dans une paille, ça faisait un son. Et puis jusqu'au jour où on a inventé une caisse en bois pour faire résonner des cordes qui étaient faites en boyau de chat. C'est-à-dire, on a utilisé tout ce qu'on avait sous la main pour faire de la musique finalement. Alors pourquoi s'arrêter aujourd'hui? On a l'électricité, on a peut-être d'autres technologies, d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Évidemment, le bois, c'est noble. Évidemment, un violoncelle, c'est un bel objet. C'est presque... on voit les veines du bois, c'est vraiment un objet pour les amoureux de la matière aussi, quoi, de la couleur, la nature, etc. Il y a plein de choses qui sont véhiculées ne serait-ce que par l'objet, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça et puis continuer de le déformer ou de le transformer.
Dans l'album, il débute avec Monochrome, le titre qu'on a écouté. Et puis, moi, j'ai choisi ensuite Jaune.
Oui.
Voilà, pourquoi la couleur jaune ?
Parce que alors ce morceau-là, il est venu aussi vraiment en studio, avec, et puis le jour où j'ai enregistré, j'avais un son assez acide finalement, parce que le violoncelle, il réagit, il a sa propre vie, donc pour moi, il fait ce qu'il veut. Et il y a des jours, il va bien sonner, et puis des jours, il va sonner un peu plus aigre, avec un goût de vinaigre, quoi. Il va pas être doux, il va pas être moelleux. Et je trouvais ça assez acide comme morceau, et jaune, je trouvais ça aussi couleur assez acide. Donc c'est venu de là, ce titre, en fait.
Timothée Couteau, aujourd'hui invité dans La Puce à l'Oreille. Le concert, c'est le 6 avril, 21h, ouverture des portes 20h30, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, dans le cadre des Nuits de la Crypte. On écoute extrait de l'album Les Violoncelles Seuls Jaunes.
Radio Scarpe Sensé, La Puce à l'Oreille, Hervé Dujardin.
Mon invité aujourd'hui, Timothée Couteau, et l'on écoute des extraits de son album Les Violoncelles Seuls. Timothée qui sera en concert à Lille, ça arrive très vite, c'est le 6 avril. C'est donc vendredi soir à 21h, ouverture des portes 20h30, dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Traille à Lille, dans le cadre des nuits de la crypte, donc un lieu magique pour accueillir le violoncelle. On parlait de cette couleur, là tu disais, voilà moi mon violoncelle, ce jour-là il était plutôt aigre, plutôt acide, il est parfois mal luné l'instrument.
Ouais, et c'est comme, vous savez, les tennisman qui, quand ils perdent un point, eh ben, ils jettent leur raquette et ils font culpabiliser la raquette. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, ouais, il y a des moments où, alors ça s'explique physiquement, hein, parce que c'est du bois, il y a un taux d'humidité dans l'air, donc il est plus ou moins humide, etc. Mais il y a des jours où il va répondre très bien à ce qu'on veut, et puis il y a des jours où il va répondre beaucoup, beaucoup moins à ce dont on a envie. Alors, je pense qu'il y a une part de psychologie aussi là-dedans, où on s'accorde avec l'instrument. Donc il y a des jours où moi j'ai envie d'entendre des sons très doux, et puis arriver à les faire, et puis il y a des jours où ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas marcher. Voilà, d'où l'intérêt de jouer de la musique qui n'est pas forcément écrite à l'avance, parce que justement ça permet de s'adapter, de voir un peu. Et moi quand je démarre un concert, de toute manière je démarre toujours par une improvisation de voilà, même une minute, enfin c'est assez juste pour voir. Pour voir où est l'instrument, pour voir comment est le lieu, pour voir, voilà.
Il y a le besoin d'enregistrer ce que tu fais, puisqu'on est quasiment sur du one shot à chaque fois. Tu as le besoin du retour, ou alors tu vas uniquement te fier à l'avis des auditeurs qui seront à ce moment-là présents. Est-ce que toi tu vas enregistrer justement cette prestation pour savoir, pour avoir et te faire ton propre avis sur ce que tu as livré, toi et le violoncelle, au moment du concert?
J'aimerais bien, là en plus, parce que comme c'est complètement improvisé, quand je travaille en musique improvisée, généralement on enregistre tout, tout est enregistré, parce que bon. Ça permet de revivre, parce que le vivre à l'intérieur c'est pas pareil que le vivre à l'extérieur, donc ouais.
Et le besoin également de garder trace peut-être d'une trouvaille à ce moment-là.
Oui, tout à fait, c'est vrai qu'il y a un morceau par exemple sur le disque, il est venu, je faisais une soirée, attention, autour du Marquis de Sade. Dans une chez un particulier qui avait mis à disposition, qui avait nettoyé sa cave, qui avait, et donc c'était tout un parcours, et moi je me suis retrouvé à jouer dans la cave,
dans le donjon en quelque sorte,
ouais. Et de ce je suis arrivé avec une idée un peu voilà, en me disant tiens je vais jouer ça, j'ai installé des trucs, des haut-parleurs autour du violoncelle. Puis finalement, j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu, parce que le moment, parce que les gens, parce que ceci, parce que cela. J'ai fait une texture, en fait, pendant 5 minutes de trucs qui s'empilent. Et ça, c'est devenu un morceau qui est sur le disque, qui s'appelle Cadavre Exquis. Voilà, mais ça vient de là. Donc en fait, oui, c'est aussi une source de... Parce qu'il y a pas... On est forcé, on est obligé de créer. C'est difficile quand on... C'est un peu le syndrome de la page blanche. Moi, pendant longtemps, je jouais du violoncelle et je me disais « Ah, je rêve de faire un truc, un album, un disque, de faire quelque chose. » Et puis, je ne le faisais jamais parce qu'à chaque fois, je me dis « Ouais, mais là, j'ai pas le bon micro. Ouais, mais là, le studio, ça va pas, ça sonne pas. Non, aujourd'hui, je le sens pas. Je vais plutôt me balader. » Enfin, on trouve toujours mille excuses pour pas... Enfin, moi, en tout cas, j'en trouve toujours plein. Donc là, j'ai imaginé un système pour ne pas trouver d'excuses. Et effectivement, jouer en public, c'est aussi un moment où on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut le faire. On peut pas laisser la page blanche comme ça. Il faut faire un truc.
Donc, Cadavre Esquisse, ça vient de la façon dont s'est montée finalement cette improvisation, un petit peu à l'image de ce que faisaient les poètes surréalistes à l'époque dans leur mode d'écriture, en laissant filer les mots après les uns après les autres.
Ouais, c'est un peu en même temps, c'est un clin d'œil, parce qu'il y avait le côté sad dessus, donc je trouvais que Cadavre Exquis, c'était, il y avait un côté, ça m'évoquait cette soirée entre des plats qu'on partageait, et puis des expériences un peu étranges. Et effectivement, après, le côté empilement qui fait qu'une note se répond à une note et que ça superpose et qu'à la fin, ça devient une matière sonore qui vient du silence presque.
Quand on propose uniquement de la musique, il n'y a pas de parole, c'est pas parlé, il n'y a pas de narrateur, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de message à passer? Est-ce qu'on peut passer un message en se privant aujourd'hui du texte?
C'est difficile de faire passer un message avec une composition qui soit pas une citation en fait. On pourrait faire passer un message en mettant une reprise de l'International ou de je sais pas quoi. Souvent dans des quand je travaille avec des metteurs en scène, il y a un moment où ils vont me demander de reprendre telle musique de pub ou tel générique de pour vraiment avoir un côté citation et que ce soit clair. Là, les messages qu'on fait passer, effectivement, ils peuvent moins être clairs et directs, etc. C'est plus un état d'esprit, c'est plus... voilà, le message, c'est d'écouter, en fait.
Créer de l'émotion.
Ouais, et puis se remettre à écouter, parce qu'on peut... on est envahi aujourd'hui de sons, de musique, de partout, et de paroles aussi. Et finalement, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais de la musique au casque et je tenais absolument à ce qu'il n'y ait aucune parole dedans. Parce que je voulais écouter la texture, je voulais me faire moi-même ma propre narration, je voulais me faire moi-même ma propre histoire. J'ai toujours préféré lire un livre que de voir un film. Donc j'ai besoin d'être dans une ouverture, en fait, de pouvoir... quand j'écoute une chanson en français, généralement, je comprends le texte bien après. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une musique, c'est un chant où chacun peut y mettre son émotion ou pas, qu'il ressent ou pas. Et j'aime bien cette ouverture, en fait.
C'est pour ça que finalement que de travailler sur d'autres projets aujourd'hui, ça te permet d'être là pour porter d'autres formes de messages.
Oui, c'est vrai qu'après on peut s'associer aussi à des gens qui soit écrivent des textes avec lesquels on est en accord, soit montent des lectures spectacles, montent des projets de théâtre. S'associer évidemment avec d'autres artistes qui eux ont un message à faire passer avec lesquels on est éminemment d'accord.
Actuellement, on te retrouve sur scène à côté d'Amandine D.
Oui.
Pour un texte qu'elle a écrit.
Oui, un texte qui s'appelle La femme brouillon, avec lequel elle a eu différents prix, donc qui marche plutôt bien. On va jouer là d'ailleurs dimanche à M, et puis la semaine prochaine en Allemagne à l'Institut français de Bonn. Et c'est vrai que c'est aussi un beau terrain de jeu pour moi que d'avoir un texte sur lequel jouer et d'avoir une voix avec laquelle interagir, avec laquelle répondre.
Voilà. Alors, le texte parle de la maternité, ouais. Entre autres. Est-ce que ça veut dire que là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où tu peux laisser, quand tu es seul, libre cours à ton imagination, te laisser envahir par l'atmosphère du lieu, là, c'est un duo, il y a un texte,
ouais.
On est dans un exercice beaucoup plus cadré.
Mmh. C'est sûr qu'on s'est mis d'accord au début sur un peu les ambiances qu'elle voulait. C'est un texte qui est assez amusant, en fait, qui est assez réaliste finalement sur la maternité, ce que j'aime bien comme de sortir un peu du côté Disneyland et c'est le plus bel enfant du monde. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il rencontre des échos assez favorables, parce que finalement il dit les choses avec un humour, et en fait on s'est mis d'accord à l'avance sur différentes textures, pareil, différentes couleurs, je vais pas parler en termes de musique, mais et puis maintenant on s'amuse l'un l'autre à s'influencer, c'est un peu notre point de départ. Ce qu'on s'est fixé, mais évidemment après on se laisse complètement libre cours à improviser autour de ça, autour de ces thèmes, autour de ces idées musicales, autour de ces rythmiques, et finalement c'est vraiment un duo, c'est pas un dialogue parce qu'on parle en même temps généralement, mais on essaye d'avoir la même énergie et de servir le même propos.
Quand tu vas cette fois-ci donner un récital seul, donc à deux violoncelle, tu vas laisser courir ton imagination, tu commences par une improvisation. La première réaction du public, ça va compter, ça, le premier regard que tu vas croiser, ou alors tu fais abstraction de tout ça et tu te retrouves un petit peu seul, comme peut l'être, tu sais, des danseurs sur une piste de danse envahis par mais qui ne sont plus qu'à deux.
Moi, j'essaye maintenant d'aller chercher les gens, de les regarder, j'ai eu la chance de faire des ateliers dans des écoles où je suis venu présenter l'instrument pendant une heure. Et en fait, j'adore regarder les gens en face et puis essayer d'aller les, voilà, d'aller les attraper, d'aller les raccrocher, surtout des petits qui bon, sont vite, hop, ils zappent très très vite. Donc aller les rechercher, aller les cueillir, les surprendre, etc., les étonner. Donc de plus en plus, j'essaye d'ouvrir, de m'ouvrir justement aux réactions des gens et de pas être trop enfermé dans ma bulle.
Et on capte le regard de la personne, on voit les yeux qui brillent parfois.
Bah, c'est le but. Des fois, ça peut faire très peur hein, de regarder les gens, parce que si on commence à se faire un film, on se dit « Ouh là, mais il y a une critique de Télérama dans la salle ». Voilà, pendant longtemps, ça m'a fait peur. Mais,
Ça compte, ça, les critiques enfin, les critiques professionnelles, j'entends dire. Ce que peut dire la presse spécialisée, tu y attaches de l'importance?
Bah, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, ne serait-ce qu'un retour, même s'il est critique, même s'il n'est pas positif. Oui, bien sûr. Moi ça m'empêche pas de faire ce que... L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une liberté totale. Je suis tenu à aucun par aucun label ou aucune maison de disques, rien. Donc je reste libre, mais évidemment je sans aller jusqu'à écrire de la musique pour un public, en ciblant, en disant tiens, je vais voilà, moi j'explore mon terrain, j'explore ce que je sais faire, j'essaye de le faire le mieux possible, puis après je vois les échos que ça génère.
Je t'emmène chez le Marquis de Sade.
Oui.
On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas rester sur cette frustration. On va donc écouter Cadavre Esquis. Tu nous as expliqué tout à l'heure la naissance de ce morceau. Enfin, on passe donc de l'univers de Sade à l'univers Sade. Voilà, pour le prochain concert. Hein, voilà, tous les...
Mais les deux sont faits en sous-sol.
Voilà, et tous les horizons sont à exploiter. On écoute Timothée Couteau. Et puis, je vous rappelle que l'album s'appelle Les violoncelles seules. On parle de la distribution juste après, de D'accord. comment se procurer ce disque. Il y aura le temps du concert, mais comment après ça se passe, on en parle juste après avoir écouté donc Cadavre Esquis.
Et ce morceau, vous l'écoutez les yeux fermés. Donc, si vous êtes en voiture, arrêtez-vous.
On écoute de suite. Ah ouais. Il y a des univers comme ça, tout à fait différents tout au long du disque. On retrouve tout ça parce qu'il est magique, cet instrument, le violoncelle. Il offre 1000 possibilités. On a du mal, parfois, à imaginer qu'il n'y a que du violoncelle là-dessus. Si c'était le pari de dire « je vais bluffer en mettant que du violoncelle », et puis, parfois, on a l'impression d'entendre même des guitares, ou, voilà, et puis on se retrouve avec des choses tout à fait incroyables. C'est une belle réussite. Avant de parler de la distribution, il y a également de belles photos.
Ah oui.
Parce que tu aurais pu faire l'économie du livret. Au final, il n'y a pas de texte, donc forcément à mettre. Mais il y a un livret avec de jolies photos.
Mais je voulais surtout pas mettre un texte explicatif. Enfin, j'avais vraiment envie de faire les choses un peu à l'envers de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre. Et oui, le livret, bah, c'est pareil. J'ai laissé libre cours donc à Yosra Mojtahidi, qui est une peintre et plasticienne qui vient d'Iran. Et puis bah, à chaque fois que je faisais les morceaux, je lui envoyais aussi, enfin on les écoutait ensemble, et puisque j'ai fait pour elle, et donc bah, on a fait une séance de photos, et puis après elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux, enfin elle sait faire plein de choses bien, ouais. Mais ça aussi des photomontages, hein. Elle expose ouais, en ce moment sur Lille, sur Tourcoing, sur Pau aussi. Voilà, c'est des travails photographiques où c'est pareil, on sait pas trop ce que dans quel univers on est, mais il y a plein de ça évoque plein de choses. J'ai un peu du mal à le décrire en fait.
Faut aller jeter un coup d'œil quoi. On est dans du clair obscur, ouais. Effectivement, on est sur du noir et blanc. On y voit ce qu'on a envie d'y voir. On devine les choses. Elles sont pas tout à fait explicites, mais en tout cas, elles sont belles.
Elle aime en fait masquer les choses. Elle aime faire une peinture et puis après recouvrir de noir et qu'on donnait juste des indices, comme si on était dans l'obscurité, dans la pénombre. Et puis du coup, on peut l'imagination travaille aussi, complète les morceaux et c'est intéressant.
L'album 12 titres. Ouais. Il est disponible où? On le trouve où cet album? Comment?
Alors, pour le commander, il y a l'adresse sur mon site. Et puis sinon, je crois qu'il est encore chez Quelque Part Records, chez Marc. Mmh. Et puis, il est aussi dans une librairie qui s'appelle Dialogue Théâtre, qui est sur la place Sébastopol. Voilà, qui me fait le plaisir de distribuer ce disque.
Et pour trouver le site, vous tapez dans le moteur de recherche Timothy Couteau, et puis on arrive sur la page point free. Ouais. Là, tout est expliqué. Il y a les dates. On peut te suivre régulièrement. Il y a tous tes projets qui sont rappelés sur cette page. On rappelle le concert, le prochain. Ça se passe vendredi. C'est à 21h. Ouverture des portes dès 20h30. À la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille pour un récital donc de violoncelle.
Avec un S.
Avec un S, oui. Ils seront deux violoncelles. Et puis, laissez-vous imprégner. C'est également l'occasion de découvrir le lieu pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore.
Oui, parce que les portes ouvrent à 20h30, comme c'est un centre d'art, pour voir... des choses assez surprenantes en fait qui parlent pas forcément de religion d'ailleurs et c'est assez étonnant comme vision. Et l'entrée gratuite, moi j'ai pas
et dit. On te retrouvera également avec Amandine D, donc dans La Femme Brouillon au Théâtre de l'Aventure à M le 8 avril.
Ouais, c'est dimanche,
c'est à 15h. Ouais. Je sais pas si il y a de la place.
Oui, je pense, ouais.
Et puis, je peux redonner une date également à Saint-André-les-Lilles. Là, ce sera le 1er juin, au Zeppelin.
Oui, tout à fait, avec Rodrigue, un chanteur de la région.
Voilà, donc à retrouver tout ça sur la page de Timothée Couteau. Merci d'être passé pour nous faire partager ton univers. Moi, c'est un album que j'ai écouté, que j'ai plaisir à ressortir pour... Voilà, différents moments, parce que j'ai besoin uniquement de cette musique et de me laisser guider. Puis, de temps en temps, je retrouve également des choses qui m'ont échappé parfois à la première écoute. Mmh. Voilà, et ça aussi, c'est le plaisir de la redécouverte. On ne s'en lasse pas. Merci d'être venu ici. Je te libère pour que tu puisses filer chez nos copains, camarades de Radio PFM à Arras.
Tout à fait.
Voilà. On va faire un coup de promo également pour PFM 99.9 qui a le bon goût de défendre les artistes que nous défendons également. Eh bien, bravo. Merci Timothée.
Ben, merci à vous vraiment pour l'invitation et puis pour cette heure passée ensemble. C'était super chouette. Merci beaucoup.
La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.